Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il y a dans la vie chrétienne quelque chose d'une musique très ordinaire, prier, aimer chaque jour, servir, rire et pleurer. Une petite musique qui peut finir par nous donner l'impression que le monde de la grâce n'est qu'un métronome venant rythmer cet ordinaire de nos vies. Il faut alors des êtres comme la femme dont nous allons parler ce matin pour nous rappeler le feu brûlant qui sous-tend tout cela, un feu déroutant, incompréhensible, scandaleux même parfois, le feu d'un amour incroyablement intense qui brûle pourtant sans vraiment consumer. Maria Teresa Carloni, une mystique auprès des chrétiens persécutés. C'est donc le thème de l'émission Vivante Église ce matin. Avec vous, Didier Rance, vous êtes diacre, historien, grand prix catholique de littérature et auteur donc d'un ouvrage à paraître incessamment sous peu, Maria Teresa Carloni, mystique au service des chrétiens persécutés, paru aux éditions Salvator. Bonjour.
Bonjour.
Merci de prendre le temps de cette émission. Alors mes excuses auprès des auditeurs parce qu'on fait ça par téléphone. Voilà, vous habitez loin de Toulouse. Il n'y avait pas moyen de faire de duplex avec une autre radio partenaire, mais on s'est dit que le sujet méritait que l'on fasse cette petite entorse à nos habitudes. Alors vous êtes un auteur relativement connu, en tout cas de certains, puisque vous avez publié un certain nombre de livres à succès, dont quelques biographies, entre autres de John Bradburn, qui vous a valu donc ce grand prix catholique de littérature. Et là, donc, vous écrivez ce livre sur cette femme. Alors, c'est vrai que, avant de se plonger rapidement dans sa vie, à vous lire, je crois, dans votre introduction, vous dites qu'au fur et à mesure que vous vous êtes plongé dans cette vie, et que vous écriviez ce livre, vous disiez « Mais est-ce qu'on va me croire ?»
Oui, tout à fait. On va bien sûr partager ça, des phénomènes, des événements extraordinaires, tout à fait surprenants. Hein. C'est tout le problème de l'irruption du surnaturel dans le naturel. Hein. Les miracles, les guérisons, les bilocations, les phénomènes mystiques. Hein. Maria Teresa a une pensée qui est très formidable et dit la transfiguration de Jésus, ça nous paraît là aussi extrêmement extraordinaire. En fait, extraordinaire, c'est quand Jésus n'est pas transfiguré, lui qui est le Fils de Dieu, c'est quand il est vu dans sa réalité humaine. D'autre part, le naturel est déjà surnaturel puisqu'il y a quelque chose plutôt que rien.
Allez, plongeons-nous, la connexion n'est pas optimale, on va essayer comme ça et puis sinon on essaiera de vous rappeler dans la vie de cette femme. Donc elle naît en 1919, elle décédera en 1983, et pour le dire dès les débuts, c'est une femme donc qui a offert sa vie pour les chrétiens persécutés, pour l'église du silence, comme on dit, particulièrement tous ces chrétiens qui ont été persécutés par les régimes communistes. Commençons par les débuts, naissance en 1919, enfance dure et malheureuse, Didier Rance.
Oui, Maria Thérèse a né dans une famille qui est à la fois noble, riche et pieuse, donc il semble tout avoir. Et puis à 3 ans, elle est déjà orpheline de sa maman, et à moins de 4 ans, elle est orpheline de son papa. Et c'est une grand-mère qui prend courageusement l'éducation de Maria Teresa et de son frère. Hein. Mais la grand-mère, elle a 60, bientôt 70, 80 ans. C'est une femme à la fois pieuse, mais aussi très rigide. Et la petite fille, bien pieuse elle aussi, ne tarde pas à s'opposer à elle. Et puis, avant même sa 10e année, il y a une sorte de drame dans sa vie. C'est une enfant très droite. Et pour faire sa première communion, elle se rend compte que les prêtres qui entourent sa grand-mère, eh bien, ils ne sont pas ce qu'ils disent être et ce qu'ils appellent à être. Et alors ça la traumatise tellement qu'elle pense avoir fait une communion sacrilège et ça, pendant plusieurs années elle va se battre avec ça. Et puis un jour elle va voir un prêtre, elle a 17 ans, pour faire une grande confession et lui se moque d'elle. Et alors là, elle s'en va du confessionnal, claque la porte de l'église, et pour elle, c'est fini, quoi.
Alors, elle claque la porte de l'église, et puis elle lance comme un défi, en fait, en regardant le crucifié. Est-ce que vous pouvez nous dire les mots que l'on connaît?
Oui, elle lui dit « Nous nous retrouverons ». son étage ailleurs elle-même, ce que ça voulait dire à l'époque. Hein. Donc elle se lance dans l'écriture, elle écrit des livres, elle se fiance à un poète, mais ça ne tient pas. Hein. Elle écrit des pièces de théâtre, donc une personnalité intellectuelle affirmée tout à fait. Mais que faire d'une vie qu'on a 20 ans et qu'on veut faire quelque chose de beau et grand? Eh bien c'est la guerre et elle décide de servir. Alors, alors qu'elle a commencé l'étude de philosophie, elle fait des études d'infirmière et pendant toute la guerre, elle se dépense à Rome pour soigner sur de les victimes des bombardements, les victimes de la guerre. Hein. Et là, il y a deux rencontres. D'abord, un jeune médecin avec qui elle va se fiancer. Et puis, le 19 juillet 1943, 4000 bombes sur un quartier de Rome, 500 morts, 4000 blessés. Elle y court, elle se dépense. Elle est en train d'aider un blessé grave. Et puis, il arrive un prêtre en soutane blanche. Et Maria Thérèse, les cartes, allez, mon référent, dépêche-toi, quoi. Le prêtre obéit. Et puis juste après, en tant que déjà chef de service dans son hôpital, elle est invitée avec d'autres au Vatican et elle découvre que le prêtre n'est autre que Pie XII. Et il lui dit ces choses étonnantes. Il dit, il y a longtemps que vous n'êtes pas venu en tel lieu. Pourquoi? Elle marmonne. Oh, j'étais malade. Il dit, en plus, vous mentez au pape. Il n'y aura pas le lendemain, mais c'est quand même une première rencontre avec Pie XII. Et puis, alors qu'elle rentre un soir après le couvre-feu avec son fiancé pour avoir servi dans un autre hôpital, il rencontre une patrouille avant même qu'ils aient pu sortir leur laisser passer. Le policier tire et le jeune homme est tué. C'est vraiment un drame terrible pour elle qui l'écrase complètement.
Didier Ross, avant qu'on parle de sa conversion, de son retour à Dieu, puisqu'on avance à grands pas, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de son caractère? C'était une femme qui avait, on va dire, un caractère plus que bien trempé, non?
Très entier, et il ne faut pas se cacher, se pose beaucoup la question du suicide à cette époque. Hein. Sa grand-mère est en train de mourir, nous sommes là en 1951, elle a 92 ans, grand-mère, et alors elle demande à sa petite fille d'aller demander au curé, qui l'habite juste en face, l'église, de venir la voir pour lui donner les derniers sacrements. Elle a jamais, ça fait des années que Maria Thérèse ne met plus les pieds dans une église, mais elle le fait pour sa grand-mère, elle demande au prêtre s'il peut l'entendre en confession, elle ne sait pas très bien pourquoi, mais d'ailleurs plusieurs jours plus tard, elle va lui parler en plusieurs jours quand même pendant 16 heures. Hein. Elle va lui raconter toute sa vie hein. Et c'est la conversion complète. Ce jeune prêtre qui s'appelle Cristoforo Campana, il l'a écouté, rien de plus, mais désormais, elle comprend que cette conversion ne vient pas d'elle, mais c'est une grâce qu'elle doit au Christ.
On peut lire un extrait de ce qu'elle a écrit dans ce journal. Peut-être pendant ce temps-là, on va vous rappeler sur votre téléphone portable. On fait une petite entorse un peu à nos habitudes, de façon à pouvoir avoir une meilleure connexion, parce que c'est un petit peu dommage, et je vous prie les auditeurs de nous excuser de ce contretemps. Dans votre livre, donc Didier Ross, Maria Teresa Carloni, mystique au service des chrétiens persécutés, donc paru aux éditions Salvator, on peut lire donc cet extrait de son journal. Aujourd'hui, je t'aime avec la même violence qu'un jour je t'ai haï. Aujourd'hui, je vois Dieu en toi, comme un jour je n'ai vu qu'un homme en toi. Que puis-je t'offrir de moi? Je n'ai qu'un corps loqueteux, mais c'est tout ce que je possède. Il est fragile et il est défendu par une armure virile. Il est pauvre, mais il déborde d'amour. Maria Teresa Carloni, donc cette femme d'un tempérament absolument extraordinaire, se convertit donc. Et après, assez rapidement, Didier Ross, elle se donne à Dieu avec la même, on va dire, entièreté qu'elle l'avait un jour rejetée.
Oui, tout à fait. Elle prononce un vœu, curé est au début très prudent, mais bon, il la suit. Hein. Et dans ce vœu, elle dit à Jésus, aujourd'hui, je t'aime avec la même violence qu'un jour je t'ai haï. Aujourd'hui, je vois Dieu en toi comme un jour je n'ai vu que l'homme en toi. Et elle s'offre complètement à lui-même. Et ça, c'est 2 mois après sa conversion. Hein. Et puis, elle attend, elle prie beaucoup, elle prie pour, en particulier pour les prêtres, parce qu'elle les a tellement méprisés qu'elle s'est dit, maintenant, je dois prier pour eux. Hein. Et puis, elle veut servir, elle a fait des études de philosophie, un peu enseignée à philo, mais surtout, elle veut servir. Donc, elle va d'abord pour essayer de servir les lépreux, puis des gens déplacés par une catastrophe. Et puis, elle se retrouve en début 52, en train de servir des petits-enfants malades dans un préventorium au bord de la mer.
Alors, quid de sa vie mystique ? Je propose en fait qu'on en donne, on va dire, un aperçu chronologique, même si ça peut paraître étrange de survoler cela, et puis après on prendra le temps, dans la deuxième et la troisième partie, de s'y arrêter plus longuement. Elle fait donc ce vœu, elle se donne donc un vœu de chasteté perpétuelle, elle se donne à Dieu 2 mois après sa conversion, vous l'avez dit, et puis tout d'un coup, dans sa vie, survient une présence intérieure, une voix. C'est d'ailleurs un mot que vous utilisez tout le temps dans votre livre. Vous ne dites pas en fait que c'est Dieu ou Jésus. Alors, il s'agit bien d'eux. Hein. Mais en tout cas, vous utilisez le mot voix. Elle dit la chose suivante. Qui est cette voix de quelqu'un qui s'impose à moi malgré tous mes efforts contraires? Parlez-nous de cette entrée dans la vie mystique, Didier Hans.
Oui, c'est alors qu'elle est en train de soigner des enfants, puis ça la gêne parce que dans son travail, elle se demande qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que c'est. Quand elle rentre chez elle, elle en parle bien sûr à son curé, et il lit beaucoup de livres, il voit des spécialistes et dit que c'est peut-être effectivement une voix du Christ. Maria Teresa ne dialogue pas. Rarement, on ne dialogue pas vraiment avec lui. Elle est comme un passage, un moyen pour cette voix de parler, et le prêtre note. Hein. Et très vite, la voix dit « Je veux réitérer en fait être ma passion. Toi, tu peux accepter ou refuser. Ça sera tout le temps jusqu'au bout. C'est toujours une proposition, jamais une imposition. Hein. Tu es l'autorité qui me représente. » Et la voix dit « Je suis Jésus. Et qu'est-ce qu'elle doit faire ?» Eh bien, le prochain vendredi saint, elle sera transpercée. Ça ne paraîtra pas d'abord au dehors, mais si elle veut bien, elle revivra sa passion avec moi. Et quand elle est revenue, elle, le prêtre lui demande « Tu veux bien ?» Et elle dit « Je veux bien. » Et donc le vendredi saint qui suit, dans 52, eh bien, elle vit dans une grande souffrance, qui alors c'est uniquement la souffrance qui est visible et qui dure pendant longtemps. Et cela, elle va le revivre après tous les vendredis. Il appelle ça les 3 heures. Sauf quand son curé, donc ce fond, la trouve tellement faible qu'il demande à la voix, à Jésus, qu'elle ne subisse pas ce qui arrivera d'ailleurs une fois ou deux pendant un carême entier, tellement elle est malade.
Alors on prendra le temps de s'arrêter un petit peu, hein, parce que même si de temps en temps on fait des émissions sur des grands mystiques comme cette femme, ça reste, je pense, pour beaucoup d'entre nous difficile à comprendre, voire choquant de prime abord. Didier Hans, cette femme, si on doit utiliser un mot un peu trivial, a été en fait toute une partie de sa vie une sorte d'agent de liaison avec les églises persécutées. On appelait ça donc l'église du silence. Donc ces églises persécutées entre autres par les régimes communistes à l'époque aux quatre coins de la planète, mais surtout dans l'ex-URSS. Racontez-nous ce rôle que cette mystique a joué alors qu'elle vivait la plupart du temps dans une grande maison en solitude.
Oui, tout à fait. Et avec d'une grande simplicité, et surtout dans ce qu'on appellera un service social pour des gens dans sa ville. Hein. Il faut vraiment insister sur le côté d'humilité, ce qui a frappé un certain nombre de responsables d'église l'ont dit, hein, son caractère le plus important, c'était son humilité. Elle-même, et puis aussi son curé, plusieurs fois, ont demandé à des psychiatres de l'examiner. Ils ont toujours dit, mais elle est parfaitement saine, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis une fois, elle a demandé, mais pourquoi moi et donc, là, ça commence en 53, hein, Staline est encore vivant, mais il va bientôt mourir, hein, quand une des grandes figures de la résistance spirituelle catholique, clandestine en Russie, meurt, et que Jésus, la voix, lui dit, là, il faudrait quelqu'un qui prie et qui souffre pour la remplacer. Est-ce que tu veux bien? Et elle dit, j'accepte.
Pour la remplacer et pour prier pour le salut de Staline, c'est ça, hein?
Voilà, prier pour le Staline qui meurt un peu après. Hein. Et donc pendant un an, ça va être uniquement la prière. Hein. La prière. D'ailleurs, Pie XII a demandé à ce qu'on prie pour tous ces chrétiens persécutés derrière le rideau de fer. Hein. Et donc, Maria Teresa, non seulement le fait, mais en plus, elle écrit une lettre à Pie XII pour dire qu'elle s'y unit avec une prière à la Sainte Vierge de façon surprenante. Le pape répond personnellement, et non pas par l'évêque, hein, en demandant à Monsieur Montini, qui est son substitut secrétaire d'État, de transmettre ça à cette jeune femme. Hein. Et c'est seulement au bout d'un an que une nouvelle étape, qui n'est plus non seulement s'offrir pour l'Église persécutée, mais s'offrir avec elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot un peu surprenant, hein? Eh bien, ça veut dire que ça va plus seulement se passer dans sa grande maison, son palais, comme on dit, en Italie, d'Urbania, mais cette femme malade qui revit la passion du Christ, qui ne connaît guère que l'italien, hein, va partir rencontrer des cardinaux, des évêques, des prêtres en prison dans les goulags ou ailleurs. Elle va essayer de gagner leur confiance dans le climat de peur, de délation, de mensonge qui est dans tous ces pays. Et puis après, elle va apprendre des choses d'eux et comment le transmettre aux responsables de l'Église, à commencer par le pape. Ça va être toute la question.
Donc de 1955 à sa mort en 1983, cette femme va donc être cette manifestation, on va dire, de la communion des saints, comme les chrétiens croient, et cet agent de liaison en fait très concret jusqu'avec les papes et toutes ces églises persécutées. On en parlera. Ça a commencé avec Pie XII et puis ça continue avec Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II. Cette femme dont le procès de béatification a été officiellement ouvert donc en octobre 2016. Je vous propose de faire une première pause musicale et puis on vous retrouve après, Didier Rance, pour parler de cette femme et de votre livre Maria Teresa Carloni, mystique au service des chrétiens persécutés, paru aux éditions Salvator. Emmanuel Pella. Maria Teresa Carloni, une mystique auprès des chrétiens persécutés. C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes avec Didier Rance, qui est diacre, historien et auteur donc d'un ouvrage presque du même nom que le titre de l'émission, Maria Teresa Carloni, mystique au service des chrétiens persécutés, paru aux éditions Salvator. Didier Rance, en ce début de deuxième partie, on va prendre le temps d'essayer de comprendre la mission vocation et la vie extraordinaire de cette femme qui a été, on va dire, une présence consolatrice. En tout cas, c'est comme ça en partie que j'ai lu votre livre auprès de nombre de chrétiens persécutés. Est-ce que vous pouvez nous aider à rentrer dans cette vie mystique ? Donc, vous nous disiez que cette femme donc, avait reçu les stigmates, qu'elle vivait donc, la passion chaque vendredi, trois heures saintes, comme vous le rapportez dans votre ouvrage. Il y a tout au long de votre livre, en fait, une omniprésence de la souffrance, y compris, dans la vie de cette femme, à travers sa passion, mais aussi tous ses problèmes de santé. Ça peut, de prime abord, être rebutant, voire révoltant, Didier Rance. Comment vous nous prendriez la main pour entrer un peu plus dans ce mystère ?
Oui, je partirai d'une phrase du cardinal Ratzinger en 2001. Il disait toute cette dimension qui a toujours existé dans l'Église, qu'on va appeler participation au mystère pascal de Jésus, de souffrance pour le salut, et particulièrement pour le salut de ceux qui font le mal, et le salut de ceux qui le souffrent aussi, bien sûr, est peut-être quelque chose que nous avons perdu parce que notre image de Dieu, notre image de Jésus est devenue trop individualiste et qu'on a perdu le sens de la solidarité spirituelle. Et hors de tout temps dans l'Église, il y a eu des êtres qui ont proposé à Jésus de participer avec lui aux souffrances de la croix, aux souffrances du mystère pascal. Hein. Et Maria Teresa en est une parmi d'autres, hein, que ce soit en Italie ou ailleurs au XXe siècle. Hein. C'est surtout le côté pour les chrétiens persécutés derrière leur rideau de fer à l'époque. Hein. Je ne cache pas que c'est ça qui m'a intéressé. J'ai publié une vingtaine de livres, ça fait un peu plus de 40 ans que je travaille pour eux, la moitié du temps sous la persécution. Il m'est arrivé de faire quelques très modestes actions derrière les auteurs, mais et puis depuis 20 ans pour faire connaître leurs témoignages. Et c'est vraiment ça qui m'a accroché, parce que cette vie absolument extraordinaire, le fondateur de l'AED pour lequel je travaillais depuis trentaine d'années.
Donc l'aide à l'église en détresse, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui,
l'aide à l'église en détresse, super bien fait, est allée déguiser derrière le rideau de fer. Hein. Ce qu'a fait Maria Teresa, parfois tous les jours, est quelque chose d'absolument extraordinaire et qui mérite d'être connu.
Alors juste à propos de la souffrance, si on s'arrête encore un petit peu, on peut lire aussi dans certains des extraits donc de ces carnets intimes que vous donnez dans votre livre. J'ai lu entre autres cette phrase « Je n'aime pas la souffrance, est-ce de l'orgueil ?» C'est-à-dire que c'était une femme qui semblait embrasser en fait parfois la souffrance, y consentir, et puis quelle souffrance, et en même temps il n'y avait là aucun masochisme. Alors comment tenir les deux ?
Oui, c'est tous dans l'histoire de la souffrance, il y a un exemple qui est déjà chez saint Paul, hein, l'athlète sur le stade, il souffre, nous savons aujourd'hui qu'il souffre énormément, on peut souffrir énormément, hein, et pourtant il est tout, hein, et dans son action, hein, et c'est sans doute saint François d'Assise, hein, qui a dit la meilleure réponse, hein, Jésus, je voudrais être avec toi sur la croix, si de mémoire, hein, sur la croix et subir tout ce que tu subis, et en même temps, avoir dans le cœur tout l'amour qui était le tien à la croix. Je crois que c'est la réponse à donner à ce mystère de la souffrance associé à celle de Jésus.
Alors revenons sur on pourrait dire bien des choses, hein, mais le propos de l'émission n'est pas d'abord d'essayer d'expliquer cette mystérieuse participation au mystère de la rédemption que certaines âmes sont appelées à vivre, on va dire de manière assez paroxystique. On appelle ça aussi les âmes victimes dans le jargon de l'Église. Parlez-nous un peu des phénomènes de bilocation. Alors il s'agit pas de faire forcément dans l'extraordinaire, mais de montrer justement aussi l'action de Dieu et la consolation que ça pouvait être, que la visite, en fait, inimaginable, hein, pour la raison humaine de cette femme. J'ai souvenir dans votre livre, un moment, vous rapportez sa visite dans un goulag en Biélorussie, alors qu'une mine s'est effondrée et que, je crois, des prêtres lituaniens essaient de s'en sortir. Racontez-nous, entre autres, cet épisode ou d'autres.
Des prêtres et des laïcs, hein. C'est le dernier grand visite, on est 1976, bon, ça commence 54-55, hein. Ça commence de façon très surprenante, Jésus lui fait demander, est-ce que tu es prête à perdre l'usage de tes jambes pour que le cardinal Sépinache, qui est en résidence surveillée dans son village, après, dans prison, en fait, puissent aller clandestinement animer des groupes de prière dans la montagne. Et d'un seul coup, elle s'effondre. Hein. Et ça va durer toute la nuit. Puis un peu après, elle lui demande si elle veut bien aller rendre visite au Kardinal Wyszynski, qui est en prison, lui, en Pologne, hein, pour le soutenir, parce qu'on est au plus bas. Hein. Le gouvernement communiste pense que ça y est, l'Église catholique, c'est fini dans ce pays. Hein. Et elle se rend donc auprès de lui, et on sait par le témoignage du cardinal que dans les jours qui suivent, le cardinal est tout revigoré. Hein. C'est d'ailleurs le premier point de réponse, parce que je ne cache pas que quand j'ai écrit ce livre, enfin en découvrant de façon plus précise la vie de Maria Teresa, je me dis, mais enfin c'est du roman tout ça. Quand le cardinal Wyszynski est sorti de prison, qu'il a pu aller à Rome...
Il faut rappeler en deux mots qui était ce cardinal, hein. C'est donc le primat de Pologne de l'après-guerre jusqu'aux années 80, rappelé en quelques mots.
Il aurait dû être béatifié cette semaine. Ça a été le grand homme de l'Église de Pologne pendant toute la période communiste. Hein. Il est mort en 81 avec son numéro 2, qui est Anna plus connu sous le nom de Jean-Paul II. Hein. Il a passé des années en prison hein, pour sa résistance. Hein. Et c'est là qu'elle va le retrouver dans sa cellule. Hein. Et quand il est enfin libéré, qu'il peut venir à Rome, hein, et bien non seulement il la rencontre, non seulement il parle d'elle au pape, hein, mais il lui demande de lui prêter les textes qu'elle a écrits et remis à Pie XII, et là, il est contre-signe de sa propre signature, pour bien montrer que ça s'est vraiment passé. Hein. Ce sera pareil avec Diana Fiti, qui lui était au Goulag, et d'autres. Hein. Donc si c'est du roman, c'est des romans auxquels vont participer quasiment tous les chefs d'église des pays de l'Est, y compris celui dans les camps et Goulag, et puis nous verrons aussi quatre papes, hein. Autrement dit, c'est cette action, cette irruption du surnaturel tellement étonnante pour nous et qu'il faut prendre comme elle est. En sachant toujours, hein, c'est tellement important à dire, hein, que Dieu, quand il appelle à ses actes miracles ou l'occasion d'une forme de miracle, la personne qui en est l'instrument reste toujours libre, hein, elle garde sa subjectivité, ses faiblesses, sa culture, voire ses erreurs dans le témoignage, hein, et nous notre liberté face à lui. Hein.
Alors juste, si vous deviez expliquer un petit peu plus la bilocation, donc elle est physiquement en Italie et elle va peut se rendre donc en d'autres lieux, comme auprès du cardinal Wyszynski, comme vous venez de le dire, mais elle a quelques mots aussi comme pour expliquer en fait ce qu'elle vivait. Voilà. Elle disait c'est comme si son corps devenait glorieux, comme en fait le témoignage qui est donné de celui de Jésus dans les Évangiles après la résurrection.
Oui, et à la transfiguration. Hein. Et j'avoue que ça m'a très intéressé quand j'ai lu ça. Ensuite, plus récemment, je suis tombé sur une étude où c'est très discuté, bien sûr, entre théologiens, mais c'est l'avis de certains théologiens, hein, que Maria Teresa n'a jamais lu. C'est d'ailleurs...
Didier Rospa, parlez bien devant le combiné, parce qu'on ne vous entend pas très correctement.
Ah, excusez-moi, allez-y. Voilà, je reprends tout de suite. Donc, Maria Teresa a retrouvé par elle-même ce que certains théologiens spécialistes de mystique nous disent, sans les avoir lus, parce qu'elle a écrit une petite passe comme ça, à la demande du père Campala, qui disait, mais est-ce que c'est pas quand même une illusion? Et elle dit non, c'est pas une hallucination, même provoquée par Dieu, mais non, le corps y est vraiment. D'ailleurs, elle rentrait des fois avec des coups, des blessures qu'elle ait pu avoir ici ou là. Hein. C'est pour elle notre corps dans l'éternité. Hein. Dieu ne trompe pas, hein, donc c'est un corps réel, hein, mais ce corps d'éternité qui, on le voit pour le Christ, n'est bien sûr plus le même que celui que nous connaissons avec toutes ses limitations. Et elle ajoute une fois à son petit voisin qui vient de servir la messe chez elle, Giuseppe Mangani, aujourd'hui un diacre qui m'a raconté ça, pour comprendre ça, il faudrait entrer dans la logique de l'amour. Et là, j'ai pensé à cette parole de Saint Jean de la Croix. Notre vie, c'est comme un ciseau qui sculpte un visage d'éternité qui restera pour toujours. Et ce ciseau, c'est tous les gestes d'amour dans notre vie. Hein. Et c'est celui qui a poussé Maria Teresa à s'offrir pour les persécutés. Alors plus concrètement,
plus concrètement, il y a eu un certain nombre de voyages. Mais avant que vous parliez de ces voyages, ou peut-être pour illustrer ma question, donc on a dit qu'elle avait servi d'agent de liaison avec cette église persécutée et les papes. Hein, donc cette église dite du silence. Ce qui est frappant, c'est que elle tient au courant en fait le sommet de l'église de la situation des chrétiens persécutés par le biais de ces grâces mystiques extraordinaires, les tenant parfois au courant jusque de certaines consécrations épiscopales. C'est ça? Racontez-nous un peu ce jeu d'aller-retour entre le sommet de l'Église et toutes ces églises grâce à cette femme.
Oui, tout à fait. Alors, c'est elle qui l'a choisie. Hein. Alors ça, c'est des visites, parce que non seulement elle vend bilocation, mais aussi elle va physiquement dans les pays de l'Est. Hein, parce que ce corps glorieux ou biloqué, elle veut aussi participer de plus près, et elle sent qu'elle a besoin de participer de plus près. Alors elle va prendre des risques et de courage pour aller à Moscou, pour aller en Yougoslavie, en Pologne, en Hongrie, en Bulgarie, rencontrer les mêmes, hein, Chivki, Bitsanti, l'ambassade américaine ou les prisonniers, Cheklach en Yougoslavie, hein, et puis ils lui disent il faut dire au pape ce que nous vivons. Hein. Et alors que peut cette femme d'une petite ville de fin fond d'Italie, et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que la première fois où ça se passe, où elle revient à la fois pour des informations qu'elle a eues par bilocation et des informations qu'elle a eues par une rencontre extraordinaire avec un prêtre clandestin devenu un responsable du Parti communiste en Hongrie, hein, donc là aussi des choses tout à fait extraordinaires, mais qu'on connaît un peu, c'est pas la seule fois, hein, eh bien, c'est que son curé va au Vatican, il est reçu par Pie XII, et Pie XII lui dit, mais envoyez-la moi.
Donc il l'envoie, et là, il lui donne toutes ces informations. Est-ce que vous pouvez, du coup, c'est l'occasion, compte tenu aussi des responsabilités qui ont été les vôtres, vous l'avez rappelé, donc vous avez travaillé pour l'aide à l'Église en détresse pendant de nombreuses années, vous avez publié beaucoup de livres pour essayer de faire connaître la situation des chrétiens persécutés, et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui encore des chrétiens persécutés à travers le monde. Pour nous qui ne sommes pas peut-être tous aussi savants et au courant de ces sujets que vous pouvez nous replonger dans la situation qui était celle de l'Église, surtout sous régime communiste. Je notais entre autres dans votre livre qu'après-guerre, ou en tout cas dans les années 50-60, si je ne me trompe pas, en Pologne, il y avait 9 évêques en prison, 2750 prêtres et religieux qui étaient aussi emprisonnés, plus de 2000 lieux de culte fermés. Vous parlez aussi de ces voyages en Albanie, en Bulgarie, qui sont assez, enfin ce qu'elle en rapporte est assez terrifiant. Est-ce que vous pourriez prendre quelques exemples qui nous aident à comprendre quelle était cette situation?
Tout à fait. La Pologne, où le régime communiste pensait être sur le point de détruire l'Église, surtout en 1956, quand Kardinal Wojtyla a commencé une neuvaine à la bière de Czestochowa pour le millénaire de l'Église de son pays. En Ukraine, c'était pire. Il restait plus qu'un seul évêque et il était au goulag. En Bulgarie, il était en prison, le dernier évêque survivant. En Albanie, il n'y avait plus l'évêque, les prêtres, c'était la peine de mort pour la célébration d'un baptême. Donc ce qu'avait dit Staline un petit peu avant la guerre, nous allons créer un homme pour lequel la notion même qu'un Dieu puisse exister ne sera plus dans sa tête, dans sa conscience. Le régime pouvait penser qu'avant l'an 2000, ça se passerait. Tchécoslovaquie, la même situation. Or, l'Église catholique était, j'allais presque dire, le poil à gratter dans cette tactique. Hein, et autant les églises orthodoxes, la plupart des églises protestantes, avaient été asservies. Et c'est absolument diabolique, mais pour l'Église orthodoxe, le régime voulait la faire autodétruire, la détruire par elle-même. Hein. L'Église catholique résistait. Et c'est pour ça que ce régime s'acharnait, ces régimes s'acharnaient tellement contre elle.
Allez, on va faire une deuxième pause, on va vous retrouver. Je rappelle le titre de votre livre, Maria Teresa Carlini, une mystique au service des chrétiens persécutés, paru aux éditions Salvator. Thank you.
Radio Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Maria Teresa Carloni, une mystique auprès des chrétiens persécutés, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin avec Didier Rance, diacre et historien et auteur donc d'un ouvrage sur cette femme paru aux éditions Salvator, ouvrage à paraître. Didier Rance, on s'est dit donc que dans cette dernière partie, on allait montrer, non pas pour rendre crédible, mais en tout cas ça y contribue, la vie de cette femme. On allait parler de son intimité avec les papes. Alors là aussi, il ne s'agit pas forcément d'abord de faire du pari match ou du mauvais pari match. Moi, ce qui m'a frappé, pour introduire votre propos là-dessus, c'est de toucher du doigt l'amour de l'Église qu'ont les papes. Alors ça peut aller de soi, mais quand vous rapportez qu'à l'occasion d'un certain nombre de rencontres, ils pleuraient ensemble en parlant de la situation des chrétiens persécutés, que les papes pleuraient avec Maria Teresa, vous pouvez commencer par ça.
Oui, c'est vrai de Pie XII et c'est vrai de 123 aussi. Hein. Avec Paul VI, la situation était un peu plus complexe. Et on peut commencer par lui d'ailleurs, par Jean-Paul II. Cardinal Wojtyła non seulement avait rencontré, mais avait reçu Maria Teresa qui dormait chez lui quand elle était à Cracovie. Hein. Quand il accède au trône de Pierre en 78, bien sûr Maria Teresa est plus qu'heureuse de tout cela, surtout que les premières paroles qui dit « il n'y a plus d'église du silence, elle parle par ma voix hein, », assise en 78, mais Maria Teresa est déjà très malade. Et elle se rendra quand même deux fois, elle ira le voir, mais c'est de plus en plus difficile. Hein. Elle tient tout juste debout et en fait elle commence les dernières années de sa vie où sont surtout des années de souffrance. Hein. Et finalement, elle aura moins de relations de travail, enfin, elle aura moins d'action du temps de Jean-Paul II. Il voit aussi que la situation change hein, qu'avec les trois papes précédents.
Alors si on commence par Pie XII, c'est donc le troisième chapitre de votre livre qui est intitulé de la sorte « Apôtre de l'Église persécutée avec le soutien de Pie XII, 1953-1958 ». Elle écrit, je crois, une trentaine de cahiers où elle rapporte au pape 38 cahiers où elle tient informé le pape de ses voyages. Ils se rencontreront 14 fois. Comment s'est construite cette confiance? Vous en parliez précédemment, mais est-ce que vous pouvez recommencer ou nous raconter la petite histoire dans la grande histoire entre cette confiance entre le pape Pie XII et elle?
Oui, tout commence en 1955. Hein. Donc son curé a rencontré le pape qui accepte qu'elle vienne le voir et elle lui remet un message manuscrit des deux cardinaux Wyszyński et puis Mincenti, et le pape qui doit avoir eu d'autres écrits d'eux, lui fait une entière confiance dès cet instant. Hein. Avec quand même deux choses qui se passent pour cette première rencontre, qui font un autre domaine. Il lui demande tout de suite, il lui dit, écoutez, demain matin, vous allez à Saint-Pierre, vous assistez à toutes les messes, et vous me dites si elles sont valides ou non. Donc elle le fait, elle revient en lui disant, eh bien, il y en avait une douzaine, il y en a six, attention, huit, même un peu plus, huit distractions, mais valides. Une avec tellement de distractions que la consécration est un peu juste. Et puis deux en état de péché mortel, mais sans volonté sacrilège. Hein. Et elle précise d'ailleurs pour sa cure. Alors le pape l'invite à déjeuner, et puis après déjeuner dans les jardins du Vatican, Pie XII sort une custode avec quatre styles, il lui demande lesquels sont consacrés. Elle en fait tomber deux par terre de la main du pape et lui dit « c'est celle-ci ». Alors Pie XII lui dit « demandons au Seigneur de nous donner un signe » et à ce moment-là une tache de sang apparaît sur les deux hosties et tous les deux tombent à genoux et prient. Le pape lui offre une des deux hosties et puis aussi les deux noms consacrés qu'il bénit. Hein. Ces hosties sont aujourd'hui à Czestochowa, dans le sanctuaire de Jasnagora, hein, où sont tous les archives de Maria Teresa Carloni, parce que les Polonais ont un grand amour pour elle. Et donc il y aura très haute visite après, d'ailleurs le pape la fera chercher à la gare de Termini, parce qu'elle souvent elle n'est pas en très bonne santé, moi qui puisse dire. Elle connaîtra les trois heures, la Castelnuovo Fou en présence du pape qui pleure, oui, au pied du lit, où elle revit la passion du Christ, et régulièrement elle l'informera sur tout ce qu'elle voit, que ce soit ses bilocations ou par ses visites dans tel ou tel pays.
Alors justement, le propos de toutes leurs rencontres, puisqu'ils se rencontrent 14 fois, c'est que tout simplement elles tiennent le pape au courant et qu'elles lui donnent des informations qu'il ne pourrait pas avoir sans elles.
Voilà, elle donne des informations dans les deux sens. D'une part, elle lui dit tel cardinal ou tel chef d'église ou tel prêtre évêque souhaiterait que le pape sache ceci ou cela, la résistance qui sont arrêtées, mais aussi les ordinations clandestines, et voudrait que souhaiterait que le pape les accepte, hein, ce qu'il avait déjà prévu d'ailleurs, mais de façon théorique, hein, sans savoir comment ça allait se passer dans ces pays. Et donc Pie XII confirme ces ordinations clandestines d'évêques et même des ordinations de mariés d'église gréco-catholique, c'est normal, mais aussi ailleurs, au moins pour l'Union soviétique. Et en retour, bien sûr, elle fait savoir dans ses voyages qui suivent, qu'ils soient par bilocation ou qu'ils soient physiques, elle fait savoir que le pape est d'accord, a dit cela. Et puis, un autre domaine dans lequel son influence est évidente, c'est que le pape écrit une encyclique des lettres apostoliques sur l'Église du silence par exemple, juste peu de temps après qu'il l'ait rencontré et qu'il lui a parlé, en particulier des cardinaux Wyszyński, Pologne, Mincenti Hongrie et Stepinac pour la Yougoslavie, il les cite nommément. Hein, et il y a des paroles qu'il dit, en particulier dans une lettre apostolique, qui reprennent tout à fait ce que Maria Teresa a pu lui dire.
Voilà, cette lettre apostolique, c'est « Au prélat prêtre et fidèle des peuples persécutés d'Europe ». C'était donc une lettre apostolique de Pie XII. Si on continue donc dans les papes, le second, on refait de l'histoire, mais vraiment ça vaut le coup de prendre ce temps. C'est donc Jean XXIII qui ouvrira donc qui lancera le concile Vatican II. Là aussi, il y a une étonnante intimité qu'on découvre entre lui et cette femme, et plus qu'une intimité, on a l'impression que c'est presque le sens profond de leur vie qui est le même.
Tout à fait. Alors, Jean XXIII semble un peu méfiant au début. Hein. C'est l'archevêque de Munich qui joue un rôle de passage, lui aussi, pour les églises de l'Est, qui va le convaincre, ainsi d'ailleurs qu'il y a un suffit de passage à Rome, de recevoir Maria Teresa. Et quand elle relate son voyage derrière le rideau de fer, le pape la remercie. Il lui dit d'ailleurs, c'est chose étonnante, mais tout à fait de Saint Jean XXIII, peut-être que vous n'êtes pas faite pour une solitude aussi grande, vous avez besoin de compagnie, vous devriez acheter un électrophone pour vous distraire. Ça, c'était bien le simple pape Jean. Mais il l'invite surtout à revenir 2 mois plus tard. Et pendant les 2 mois qui suivent, presque tous les soirs, elle va aller dans tel ou tel pays en bilocation. Elle va écrire un long mémorandum très détaillé sur tout ce qui se passe pour les évêques, les prêtres, les laïcs, avec des demandes, par exemple des évêques dans plusieurs pays, demandent qu'on ajoute un vœu de pauvreté lors de l'ordination sacerdotale dans leur pays, parce que c'est tellement... les régimes essayent constamment par ce soit par l'argent aussi avec pour les faire chuter sur le célibat sacerdotal et donc le pape reçoit tout ça et des choses vont passer dans son action. Et puis elle va aussi connaître une toute autre dimension de sa vie, mais tellement aussi importante pour elle, à savoir l'Afrique. Elle a commencé par prendre en maternité spirituelle 1, puis 2, puis 3, puis 10, puis 20.
Alors juste, Didier Rance, une maternité spirituelle, c'est quoi? Vous pouvez peut-être rappeler aussi, même si vous l'avez dit précédemment, que le prolongement de cette offrande de sa vie pour les chrétiens persécutés, c'est aussi une vie offerte pour les prêtres.
Oui, tout à fait. Elle avait toujours rêvé de se marier, mais surtout d'avoir des enfants. Et alors, elle est déjà assez avancée dans sa vie spirituelle et mystique, elle a une autre idée, elle écrit à Rome, un ordre missionnaire, elle dit « Envoyez-moi le nom d'un séminariste et je vais être sa maman spirituelle, j'ai prié pour lui. » Comme elle a encore un peu de sous à l'époque, hein, elle était au début, elle était très riche, à la fin elle était très pauvre, parce qu'elle a tout donné, surtout pour les pays de l'Est, mais aussi pour ses enfants spirituels, on lui envoie le nom d'un prêtre, et qu'elle le soutient par sa prière, et puis après il y en aura deux, trois, près d'une vingtaine, plupart, une bonne moitié d'entre eux deviendront des évêques ou même un cardinal. Au Soudan, c'est surtout des Soudanais. Hein. Et en 1960, elle décide d'aller les voir. Elle est déjà bien malade, mais elle va passer plusieurs semaines dans le sud Soudan où il y a déjà la guerre, rencontre les uns et les autres. Elle va même rencontrer un prêtre qui a été jeté en prison parce que dans le sud Soudan, où il y a peu de musulmans, le gouvernement a décidé que ça ne serait plus le dimanche, mais le vendredi, le jour de congé, elle se prête à protester, est en prison. Hein. Et quand elle revient, elle participe à un colloque et elle rencontre Jean XXIII, qui aussi, elle peut rendre compte de la situation de ce pays, où d'ailleurs bientôt les missionnaires vont tous être expulsés. Et alors Jean XXIII lui fait un cadeau magnifique, hein. Et par les voies les plus hautes, puisqu'il promulgue un bref apostolique qui demande l'érection d'une chapelle et la célébration quotidienne de la messe dans la maison de la Signora Carloni, je cite le texte du pape, à cause des mérites très spéciaux acquis par elle en ce qui concerne l'Église.
Hein. Donc, Didier Hans, pardon, je vois le temps qui passe et je voulais peut-être finir cette émission sur une note plus personnelle. Des biographies, vous en avez écrit. Cette biographie, vous laissez entendre au début de votre ouvrage qu'en fait, on vous a demandé de l'écrire. Est-ce que vous qui avez donc œuvré une partie de votre vie pour en faveur des chrétiens persécutés, soit pour faire connaître leur martyr et leur combat, soit pour leur porter assistance via l'aide à l'Église en détresse, même si c'est l'aide à l'Église en détresse, c'est deux en un. Est-ce que c'est, je sais pas, qu'est-ce que ça a changé pour vous de vous le pencher sur la vie de Maria Teresa Carloni?
Oui, bonne question. J'ai travaillé sur bien d'autres figures et je travaille quotidiennement sur deux causes de sainteté, de John Bradburn et aussi d'un Italien. Et Maria Teresa, c'est une demande du directeur de Salvador et de son directeur littéraire, hein, de Marc Chouchet. J'avais lu dans Elle était hier, c'est à mon avis, je crois, la seule chose qui était parue en français, un petit article sur elle, et ça m'avait intéressé, mais on a tellement de travail. Et puis j'ai dit tout de suite oui, parce que j'ai dit quand même, Seigneur, il utilise tout pour le bien de ceux qui croient en lui. Hein. Elle m'a fait penser à cette phrase d'un conseiller de la foi tchécoslovaquie, à qui je disais en bon français, il avait 35 ans, il avait perdu du boulot, pas des enfants, tout ça, est-ce que c'est bien raisonnable de faire ça? Il disait, vous savez, monsieur, si on ne prend pas de risque pour lui, comment Dieu va nous permettre d'expérimenter qu'il prend soin de ceux qu'il aime? Eh bien, parmi tous les soins qu'il a pris pour ces chrétiens qui souffrent et qui prend encore aujourd'hui, bien sûr, il y avait cette femme d'une toute petite ville de l'Est de l'Italie que qu'on connaissait surtout comme donneuse de sang, hein, et ça m'a paru vraiment dans les façons du Seigneur. Hein, un chevalier, un panzer comme le père Werenfried, un fonceur, hein, qui a créé une œuvre dans plus de 130 pays du monde pour les aider, pays de l'Est et autres, bien sûr, hein, et encore aujourd'hui, et puis l'action de cette femme si modeste et si humble.
Voilà, c'est ce prêtre que vous citez qui est donc le fondateur de l'aide à l'Église en détresse. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire. Moi, je la citerai pour finir. C'est un passage donc dans votre livre. Elle parle du martyr. Elle dit la chose suivante. « J'ai souffert beaucoup, mais plus je souffrais, plus je sentais que je pouvais souffrir encore. J'ai cru y comprendre que les persécutés, les martyrisés pour la confession dans le Christ savent résister face aux martyrs. Ce qui humainement semble ne pas pouvoir se concevoir, c'est que la force qui existe chez ces êtres fragiles assume le visage surnaturel, le visage divin. Peut-être jamais comme en ce moment, l'homme se montre vraiment à l'image et à la ressemblance de son créateur. » Voilà cette phrase donc qui explicite, enfin qui laisse entendre la grâce qui accompagne aussi les martyrs.
Et toute l'expérience que j'ai des confesseurs de la foi, en ajoutant, c'est elle aussi qui le dit, qu'elle a accepté aussi de souffrir en se mettant dans la peau des persécuteurs. Et ça, c'est cette dimension du pardon qui est peut-être la plus grande, en fait, du martyr.
Voilà, donc un livre, on va dire, qui secoue, c'est le moins qu'on puisse dire, comme la vie de cette femme qu'on a essayé de vous faire entrevoir ce matin. Merci Didier Hans de vous être rendu disponible. Je rappelle une dernière fois le titre de ce livre, apparaître tout bientôt, Maria Teresa Carloni, mystique au service des chrétiens persécutés, paru aux éditions Salvator. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.